Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et comme toujours je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
Ah, ça va pas trop pire, et toi, comment ça va?
Ça va bien, comme d'habitude, la même affaire que d'habitude. Je sais, je fais des faces, personne ne peut me
faire des faces, comme d'habitude, parce que c'est
comme
un...
Comme d'habitude!
C'est un médium très visuel, le podcast.
Ben tout le monde sait ça, fait que tout le monde peut voir mes faces, c'est vraiment super utile. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus léger que... Non, c'est pas vraiment léger, mais c'est beaucoup plus amusant, mettons, que la disparition de Cédrica Provencher, qui est la dernière chose dont on a parlé, et qui nous a rendus tous très tristes.
C'est quand même léger comparé à d'autres choses, surtout que moi, le dernier cas que j'avais couvert, c'était Alain Perrault. C'est un cas aussi qui va amener un petit peu de nostalgie dans nos cœurs, parce que je parlais d'émissions pour enfants...
Oui! Fait que là, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Je veux pas le spoil, c'est à toi de le dire. Je veux pas te voler ton sujet.
Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous parler du combat qu'a mené Claude Robinson contre Cynar, la grosse boîte de production télévisuelle. Ça va être long, ça va être un petit peu compliqué, mais faites-moi confiance si vous avez aimé Norbourg, si vous avez aimé Earl Jones. Ça va être dans vos cordes, puis ça va être ben fun, je vous le promets.
Ça va être belle fun, ça va être dans nos cordes, ça va être merveilleux, j'en suis persuadée. Puis avant ça, je vais vous présenter un café.
Yes, sir!
T'es-tu prête?
Je suis prête, là, j'ai ma tasse dans mes mains, let's go!
Fait que là, j'ai une confession à faire. J'ai recommencé à boire du vrai café.
Oh my god!
Comme pas du café décaféiné, relaxant, genre du vrai
café. La police s'en vient.
Fait que là, j'ai un café à vous... j'ai un café à vous présenter qui nous a été livré par le Roasters Pack, qui est notre... collaborateur.
Notre meilleur ami.
Alors, le Roasters Pack, on l'a déjà dit, c'est un service de distribution de café. Vous pouvez commander des boîtes de café qui sont livrées au pas de votre porte chaque mois. Et vous pouvez choisir tous les paramètres du café. Non, mais vous pouvez jouer avec tous les paramètres du café, puis choisir quelle mousseur vous voulez, si vous voulez qu'il soit déjà moulu ou non, si vous préférez vous casser la tête puis le faire vous-même. Vous pouvez aussi choisir le niveau de torréfaction. Il offre différents niveaux de torréfaction, puis du café qui est spécialisé pour les machines espresso, etc. Et aussi du décaféiné. Mais là, j'ai repassé au vrai café. C'est pour ça que je parle vite demain matin. Fait que là, je vais aujourd'hui vous parler du café que j'ai bu un matin. Je l'ai choisi parce qu'il a des notes de pomme rouge, de caramel et de chocolat. Et finalement, c'était une grave erreur parce que c'était vraiment trop sucré pour le matin. Mais c'est un excellent café d'après-midi. Ça s'appelle le Costa Rican Red Honey par Seth Taylor Coffee by Design, qui est une compagnie, un torréfacteur canadien qui vient de Oakville, en Ontario. Puis là, j'ai appris, ça vient avec une petite carte de café, là, le Roasters Pack. C'est très intéressant, fait qu'il donne plein d'informations
sur... Pour que vous sachiez ce que vous mettez dans votre corps.
Ben oui, parce que notre corps est un temple, comme...
Exactement.
Comme Melchizedek.
Comme Jay du Temple.
Aussi, deux références complètement différentes. Ben oui. Pareil comme Jay du Temple, fait que notre corps est un temple. Et là, ça explique sur la petite carte de café que le Red Honey Processing, c'est une façon différente de... justement, processer le café. Non, mais une fois qu'il a été récolté, il conserve un petit peu de la pulpe autour de la graine de café pour justement pas détruire la membrane protectrice. Et là, le Red Honey, il y a à peu près 50% de la pulpe autour de la graine de café qui est conservée. Ensuite, c'est séché pendant un petit bout de temps pour que ce soit bien sec, pour pas qu'il y ait des... C'est brassé aussi, c'est séché au soleil, puis brassé souvent pour pas qu'il y ait de fermentation, pour pas qu'il y ait de bactéries. Puis une fois que c'est très, 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 très sec, ben là, le processus de torréfaction peut commencer. Fait que là, c'est un café qui a été... ça a été processé de manière différente. On est tellement bilingual. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un café qui est très acide, puis que je vous recommande pour, mettons, en début d'après-midi. Parce qu'on veut pas boire du café après ça, parce qu'on est vieux, on s'en rappelle.
Faut qu'on fasse dodo.
Faut qu'on fasse dodo. Puis là, j'ai checké, j'ai vérifié ça un matin, là, nos statistiques de qui est-ce qui nous écoute, là. Puis on sait que la plupart des gens qui nous écoutent sont âgés d'entre 25 et à 45 ans. Donc, on est vieux. C'est correct, on n'est pas des petites jeunesses adolescentes. Là, on peut pas juste boire du Red Bull à longueur de journée. Fait que je vous conseille ça pour comme le midi ou la fin d'avant-midi, mais pas nécessairement en vous levant parce que c'est un café qui est très acide et très sucré. Donc, c'est vraiment pas du café méga torréfié du McDonald's là, qui vient dans un petit pot ou du Maxwell House. Mais néanmoins, c'est un très bon café qui a des notes justement très douces en bouche. Moi, je l'ai bu avec du lait, parce que j'aime beaucoup quand le café a la même couleur que ma peau, et ma peau est pâle. Et honnêtement, c'est une très belle expérience de dégustation, même si ça ne fitait pas du tout avec mon déjeuner, mais ça, c'est complètement de ma faute. Voilà, c'est la fin de ma présentation de café. Donc, on le répète, c'est le Costa Rican Red Honey de Seth Taylor Coffee by Design, qui vient de Oakville, en Ontario. Alors maintenant, je suis prête à mettre mon petit carton de café de côté, prendre ma petite tasse de café et écouter... La saga Claude Robinson snore. Go!
J'espère que t'as pris une grosse tasse, en fait, parce que ça a duré 18 ans. Fait que je m'en emmène du crime dans ton café,
oh,
ma chère.
Oh, donc c'est fun! Parfait! Il était devenu majeur.
Ah, ben oui, il pouvait voter, il pouvait s'acheter de l'alcool.
Le procès?
Là, juste avant de commencer, j'aimerais tout de suite faire un petit disclaimer pour les gens qui connaissent peut-être un peu plus l'affaire. J'entrerai pas dans les détails de la fraude avec North Shield et Montréal. Pour la simple raison que l'épisode durerait 3 heures. Mm. Puis qu'à un moment donné, juste parler de chiffres, ça devient un peu long et fatigant.
Mais c'est qui les gens qui connaissent plus l'affaire? À qui tu t'adresses présentement?
Mais ça avait quand même fait la une des journaux, puis c'est la plus grosse fraude qu'il y a eu au Canada. Là. On est vraiment loin en avant de Norbourg.
Oh, pour vrai?
En termes d'argent qui a disparu. Là.
Mais sans la croix, peut aller se rhabiller. Ah, OK, d'accord.
Ben, c'est que c'est carrément 3 compagnies qui se sont comme faites tomber une puis l'autre.
Oh.
C'était vraiment un effet domino. On va en parler éventuellement, parce que c'est quand même intéressant, parce que Lino Matteo, c'est Vincent Lacroix, mais qui aurait « Wake up and chose violence ».
Ah! C'est comme Vincent Lacroix, mais italien qui mange au pacini.
T'as tout compris. Parfait. Fait que on va mettre ça de côté pour l'instant, mais comme je vous dis, j'ai quand même un peu commencé à faire des recherches là-dessus, donc éventuellement, ça devrait venir aussi dans nos futurs épisodes.
C'est fun. Toi, tu fais de la fraude, moi, je fais des enlèvements d'enfants. C'est vraiment... On a chacun notre catégorie chacune notre catégorie de cas.
Pour le FBI qui m'écoute dans mon ordinateur, je fais pas de la fraude, je fais des épisodes de podcast sur de la fraude. Je suis une gentille personne, mes parents m'ont bien élevée.
Absolument.
Alors maintenant, je vais passer à mes sources, et j'en ai énormément.
Nice, parfait.
J'ai fait de la recherche pendant 1 mois et demi à peu près, donc vous allez devoir bear with me.
J'allais dire, t'as fait trop de recherches, mais je suis sûre que ça va vraiment valoir la peine, finalement.
Oui. Écoute le feu d'artifice dans vos oreilles. Alors tout d'abord, j'aimerais nommer le documentaire « La femme qui ne se voyait plus aller » par la journaliste Francine Lévesque. Un excellent documentaire si ça vous intéresse. L'épisode d'enquête consacré à Claude Robinson.
Oh, enquête!
Ensuite, les articles de Francis Veil dans la presse qui a beaucoup couvert l'affaire. Les articles de Brian Miles dans Le Devoir qui était pas mal lui aussi la personne assignée à ça. Des chroniques de Yves Boisvert, encore une fois, dans la presse.
Ah, yeah, Yves Boisvert!
Et des chroniques de Nathalie Petrovski, toujours dans la presse. Merci, la presse, pour tout ce que vous m'avez donné. C'était vraiment le fun.
Hey.
Et aussi, le profil de Claude Robinson pour l'agence qui le représente. Sa biographie est très bien écrite sur son profil d'agence. C'était très intéressant.
Oh, merveilleux!
Alors... Strap yourselves in, tout le monde. On va parler de fraude.
Clic!
Alors, l'affaire Cynard, David contre Goliath.
Nice.
Partie 1, hashtag girlboss. Micheline Charret est née le 16 mars 1953 à Londres, en Angleterre. C'est l'aîné d'une famille québécoise de 4 enfants qui avait immigré en Europe à cause du père, André, un ancien joueur de hockey et pionnier de la chirurgie dentaire.
Mon Dieu, c'est varié comme occupation.
Oui. Écoute, après t'avoir pété les palettes avec ses slapshots, tu t'es réparé.
Oui, quand même gentil. Beaucoup de skills, ça.
J'appelle ça avoir l'œil pour les affaires. Mm-hmm. Donc, si la famille va éventuellement revenir s'installer dans la haute ville de Québec, Micheline va retourner à Londres en 1971 pour faire son entrée au London Film School pour poursuivre son rêve de devenir cinéaste.
Micheline. C'est vraiment pas un nom pour avoir vécu en Angleterre, ça, Micheline Charest. Voyons donc.
Pas vraiment.
OK.
Mais là, elle va réaliser assez rapidement que, ben, elle a aucun talent dans le domaine. Puis je veux dire, props. C'est correct de te rendre compte que t'es pas bon dans quelque chose.
Ben oui, on est tous limités d'une certaine manière.
Alors, elle va rentrer à nouveau au Québec en 1973, mais cette fois-ci pour s'établir à Montréal, où elle va obtenir un poste au studio des femmes de l'ONF. Micheline est une employée qui va pas vraiment se faire remarquer à l'ONF, mais c'est grâce à cet emploi qu'elle va pouvoir participer à un festival de films consacré aux femmes en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Sur place, elle va faire la rencontre de l'organisateur du festival, un jeune ingénieur et cinéphile du nom de Ronald Weinberg.
Ronald
Weinberg.
C'est un francophone?
C'est un anglophone, américain.
C'est Ronald,
mais j'aime mieux dire Ronald.
Que... Oui, ben oui, je te comprends, mais je pensais que c'était comme, c'est ça, un petit gars de la Beauce, Ronald Weinberg. Non, c'est ce
que... On va mettre des photos de Ronald Weinberg, bien entendu, sur nos... sur nos réseaux sociaux, il a de l'air d'un personnage de Pixar. <C'est>... Mais là, dans les médias autour du festival, Ronald, il avoue ouvertement que la raison pour laquelle il a organisé un festival de cinéma consacré aux femmes, c'est parce qu'il cherchait une blonde.
Ben voyons donc.
Ben oui.
OK.
Ben, souris à la vie, mon cher Ronald, parce que ça va être le coup de foudre entre lui et Micheline, qui bientôt emménagent ensemble à New York City.
Micheline, encore. Micheline!
Alors, Micheline et Ron sont deux personnes ambitieuses. Puis ils désirent pas juste vivre ensemble. Non. Ils veulent bâtir quelque chose ensemble.
Hashtag goals. Couple goals.
Puis tu sais, j'avoue que bâtir des meubles IKEA, ça teste un couple. Hein?
C'est vrai, par exemple. Comme bâtir une compagnie, puis frauder le monde.
Hein? Hey, ça teste le couple, tu sais. Mais là, autre que des meubles IKEA, qu'est-ce qu'on peut bâtir? Peut-être écrire un film? Ben non, ils n'ont pas de talent, on l'a déjà dit. Produire un film?
Ça se bâtit pas, un film.
Non. Ça prend de l'argent à produire un film, puis de l'argent, ils n'en ont pas encore.
Mais là, c'est des Amaraquins. Ah, OK, d'abord. Qu'est-ce qu'ils vont bâtir?
Mais là, faute d'avoir de l'argent ou du talent, Charest et Weinberg ont, comme Carrie Bradshaw et Monica Geller, un appartement à New York City. Et, contrairement à ce que les comédies romantiques veulent bien nous faire croire, trouver un appartement à New York City, c'est pas si facile que ça. Et ça va être en grande partie à cause du boom immobilier des années 80 qui va faire prendre beaucoup de valeur à l'appartement de Micheline et Ron. Flairant la bonne affaire, le couple décide de vendre l'appartement et ils vont prendre l'argent pour se lancer une boîte de production et... dans le fond, ils vont vendre des cassettes du coffre arrière de leur voiture.
Mais voyons donc!
Et là, si vous vous promenez dans la rue, quelqu'un veut vous vendre une cassette de son coffre arrière de voiture, vous dites non merci et vous passez tout droit.
C'est comme le monde qui essaie de te vendre des montres qui sont comme attachées à l'intérieur de leur manteau, là. Ça m'inquiète, ça.
Tu veux-tu des cassettes?
T'attends-tu d'acheter des beaux bijoux? Puis là, il ouvre des flaps de manteau, puis c'est juste comme des colliers en faux or.
Bling, 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 bling.
C'est même bizarre comme idée de business, ça, je comprends pas trop.
Alors, tout d'abord, Micheline et Ron vont distribuer des films étrangers à des cinémas d'art et d'essai. Ils vont cependant finir par se rabattre sur le cinéma d'animation pour enfants par nécessité plus que par intérêt. Parce que là, je sens que tout le monde qui nous écoute va être vraiment surpris, mais le cinéma d'art avec des sous-titres, ça vend pas fort.
Shocking, effectivement. Le monde n'aime pas ça, lire, on le sait.
Non. Si je voulais lire, je lirais un livre.
C'est ça. J'ai pas le goût d'écouter, puis de lire, puis entendre, puis voir en même temps. Puis tout, c'est trop d'immersion.
Too much. Alors, Micheline et Ron vont acheter des films animés à l'étranger, les doublés en anglais et les ventes.
Mon voisin Totoro. Oh! Ça m'a fait peur! C'est comme là, non, c'est pas ça, c'est Spirited Away qui m'a fait peur, mais c'est correct.
Parlant d'avoir peur, en 1984, Micheline est enceinte.
Non, ça fait peur! Ça fait peur! Oui! Comprends ça?
Micheline est enceinte de son premier enfant! Yeah. Alors, la petite famille va décider de quitter New York City pour s'établir à Montréal.
Junior Weinberg.
Oui, Weinberg, le deuxième nom. Où est-ce qu'il est d'enfant à Montréal? À l'époque, le cinéma québécois est en pleine émergence et est à la recherche d'investisseurs, de gros joueurs, de laboureurs, des gars avec des gros bras.
Yes. En quelle année, ça?
84.
Nice. C'est le temps de Cruising Bar puis le déclin de l'Empire américain, toutes ces affaires-là.
Yes, sir.
Nice.
Mais inquiète-toi pas, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à l'époque dans le monde culturel.
Mais j'aime ça deviner, même si je connais rien.
C'est correct.
Keeps me sharp.
Alors... Écoute, à l'époque, le gouvernement canadien va développer des fonds d'investissement et des réductions d'impôts pour encourager le développement du cinéma d'ici, qui a du mal à sortir de l'ombre que lui fait le cinéma américain. Alors, les nouveaux efforts gouvernementaux vont venir en aide au couple Charest-Weinberg pour démarrer Cinar et aussi les enrichir. Et ils vont donc passer de la simple distribution à la production télévisuelle.
Nice.
Et là, c'est l'heure de la petite capsule historique. Au début des années 80, c'est l'arrivée de cette magnifique invention qu'est...
La TV.
Le câble.
Ah, OK.
Le TV un petit peu avant.
Ah oui, c'est ça. La TV, c'était comme 30 ans avant.
Ouais, ouais.
Je suis vraiment...
Ma grand-mère en avait une.
Ah!
Alors, c'est l'arrivée du câble.
Non.
Puis là, les câbles, les chaînes, c'était avant Netflix, avant la grosse soucoupe qui regarde le ciel, pis tout, pis tout. Dans le temps, là, il fallait prendre des forfaits, puis s'abonner à des chaînes, puis payer à tous les mois, puis « Ah oh non, ouais, c'est pareil comme maintenant, là, c'est vrai. »
Dans les années 80 que ça a parti! Moi, je pensais que c'était le temps parce que moi, on avait juste trois postes qui étaient... Ils appelaient ça « Télémétropole
». Non, ça, c'était « Tu te branchais dans le mur,
oui,
puis c'était comme... »
Oui, c'est ça,
c'était comme la radio.
Tu te branches dans le mur, puis tu peux écouter le 3, le 4, puis le 7.
Exactement, tu peux écouter nice. Bobino et Bobinette ou de la neige.
Puis le 5 aussi, des fois. TQS. Nice. OK, parfait. Donc, la câble-distribution a commencé à cette époque. On va se forcer pour bien parler.
Exactement.
Toujours. Oui.
Alors, l'arrivée du câble dans nos belles chaumières, ça signifie l'apparition de nouveaux postes de télévision qui sont en quête de contenu à diffuser. Parce que c'est bien beau avoir une TV, mais à un moment donné, on s'écœure de regarder la météo puis du grichage.
Ça ne fait rien.
Fait que...
Les pays d'en haut.
Ça ne fait rien.
Il y en avait des choses à Radio-Canada puis à Télémétropole, tu sauras. OK, parfait.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'époque est parfaite pour se partir. Une belle grosse boîte de production! Alors, pour la première fois dans le domaine de la culture, la demande va être plus grande que l'offre. Et c'est ça qui va permettre à Cinar de s'imposer dans le paysage télévisuel de l'époque. Parmi les premiers succès de Cinar, on va compter une adaptation en dessin animé du Magicien d'Oz, Madeleine et Le Monde irrésistible de Richard Scarry. Mais là... En 1994, la réputation de Cinar dans le monde télévisuel va être cimentée grâce à son plus grand succès.
Caillou!
Non.
Ah, excusez.
En effet, la chaîne WGBH de Boston était parvenue à convaincre l'auteur Mark Brown d'adapter sa série de livres Arthur à la télé en format animé. Donc, après avoir longtemps cherché un producteur qui respecterait les valeurs de non-violence promulguées par Brown via son œuvre, c'est sur Cinar que le choix va s'être arrêté. Et grâce à Arthur, qui va être récompensé de prix Emmy en 98 et en 99, et qui demeure à ce jour la série pour enfants la plus écoutée au US of A, Cinar est en route pour la gloire. Alors bientôt, les émissions produites par Cinar vont être traduites en 40 langues et distribuées à travers 150 pays, en plus d'être responsable de plus de la moitié des émissions pour enfants d'âge préscolaire présentées en France.
Wow! Oh my God, wow!
C'est nous autres qui élèvent vos enfants, les Français!
Wow!
En plus d'Arthur, d'autres classiques vont bientôt venir s'ajouter au catalogue de Cinar. Parmi eux, on peut compter Les aventures de l'ours Paddington,
Ooh!
Caillou
Ooh!
Et Are You Afraid of the Dark?
Ah! Oh, ça faisait peur, ça!
Ça, ça fait peur, ouais.
Oh non!
Donc, Cinar va rapidement être considéré comme le pendant canadien des studios Walt Disney.
Oh, ben je veux dire, big if true, mais oh, c'est cute! Mais pas vraiment, mais oui.
Ben écoute...
Je trouve la comparaison comme pas de sens pour tout. C'est comme dire du Kool-Aid, c'est l'équivalent du jus fraîchement pressé des pommes de notre verger. Là. pas tant sûr de ça, là, mais oui, OK, on va dire.
Écoute, ça a marqué notre enfance.
Ben oui, mais je veux dire, c'est pas le même niveau de production pantoute, puis en tout cas...
Ça, je suis d'accord là-dessus, mais...
C'est juste parce que j'ai vu tellement de documentaires sur comment ils faisaient l'animation des années 30, puis je trouve ça comme fascinant, Walt Disney, mais en tout cas... Oui, on le sait, Walt Disney, c'est problématique, on va juste le dire, là. Puis la personne de Disney est problématique.
Cynar aussi, je vais tout vous expliquer ça. Alors, en 99, Cynar est au sommet de sa gloire. Si la compagnie avait fait son entrée à la bourse de Toronto et de Montréal en 1993, elle ouvre son nouveau bureau sur le boulevard René-Lévesque et compte maintenant près de 200 employés, en plus de créer de l'emploi pour près de 600 actants du domaine de la culture. À cette époque, Cynar atteint une valeur en bourse de 1,6 milliard. Et Micheline est nommée par le magazine Le Hollywood Reporter une des femmes les plus influentes de Hollywood. You go girl! Mais là, je sais ce que vous vous dites. Audrey, on est supposé de parler de crime ici, hein?
Ouais, c'est ça.
Puis là, moi, je vais vous dire, ben oui, pas de stress.
Ah, OK. On a le temps, on a le temps.
Au début...
juste 20 minutes qu'on parle.
Au début de l'année 99, la journaliste Nathalie Petrovski va écrire un portrait élogieux de Micheline Charest, la proto-hashtag girlboss, qu'elle décrivait en ces termes. Ne parlez pas à Micheline Charest de ses millions, de sa maison à Westmount, de sa première position chez les femmes d'affaires québécoises, ni de sa 19e position au palmarès des femmes les plus puissantes du Hollywood Reporter, ni du fait que malgré ses convictions fédéralistes, elle a été la seule femme entrepreneur invitée par Lucien Bouchard, assiégée au sommet économique de 1996, aux côtés de Jean Coutu.
Jean Coutu, le pharmacien.
Quelques mois plus tard, la même Nathalie Petrovski va faire volte-face et écrire un article pas mal moins flatteur sur Madame Charest qui dit ceci. Quelqu'un, je vous dirai pas qui, trouve que Micheline Charest, la présidente de Cynar, ressemble à un conducteur ivre qui refuse de reconnaître qu'elle a trop bu.
Moi, je trouve qu'elle avait des beaux cheveux en triangle. C'est juste ça que j'ai à dire. Avant, là, quand elle avait des cheveux, là, après ça, elle avait plus de cheveux. Là, mais... elle avait les cheveux très courts, mais avant, elle avait les cheveux en forme de triangle, puis c'était très beau.
Alors, en 1999, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un squelette que Micheline et Ron avaient essayé de dissimuler au fond d'un placard de leur grosse baraque de Westmount qui allait bientôt refaire surface. Un squelette qui avait pour nom Claude Robinson. Partie 2. Un squelette nommé Robinson.
Nice.
Claude Robinson est né à Montréal le 2 mars 1952. D'aussi loin qu'il se rappelle, il a toujours eu un crayon à la main pour dessiner et c'est grâce à son talent de dessinateur qu'il se trouve rapidement un emploi dans une imprimerie. Là, son patron va lui offrir une augmentation à condition qu'il réussisse un cours du soir en graphisme.
Nice!
Acceptant l'offre parce que... duh!
Mm-hmm.
Robinson va entamer des recherches... des démarches auprès de l'École des arts graphiques de Montréal. Compte tenu ses acquis ainsi que son portfolio, l'artiste est accepté directement en troisième année. Puis, l'École des arts graphiques de Montréal, c'est pas rien. On y a entre autres formé Pierre-Yves Pelletier, l'artiste derrière le logo des Olympiques de Montréal.
Wow! Mais je veux dire, c'est juste synchrone.
Il y a beaucoup de thoughts qui vont derrière le design même le plus minimaliste.
Excusez, c'était pas le logo,
j'entends,
là!
J'entends tous les graphic designers qui nous écoutent faire... Catherine! Motivé à poursuivre sa formation, Claude Robinson va décider de suivre des cours du soir en art plastique. Portfolio en main, la commission scolaire de son quartier va plutôt lui offrir un poste comme professeur d'art plastique à l'école secondaire Vanier.
Ah, oh, c'est dommage fun, ça!
À l'âge de 20 ans, Robinson quitte pour l'Europe pour poursuivre sa formation d'artiste. Il va revenir à Montréal en 1975 pour fonder les productions Nilem et est amené à œuvrer dans les domaines de l'animation et de la publicité, tant à titre de directeur artistique, de concepteur, de réalisateur ou de responsable de la création. Il va compter parmi ses clients Air Canada, Chrysler, Club Med, Bombardier, Labatt et Budweiser.
Mais pas les Olympiques!
Pas les Olympiques!
Je suis constiquée des Olympiques!
Et puis là, si vous vous rappelez de la publicité que Céline Dion avait faite pour Chrysler, c'était une production de Claude Robinson.
Ah, oh, c'est bien fun! Je m'en rappelle pas partout, mais ça a l'air la fun.
C'était dans les années 80. Nice. Nous n'étions qu'une lueur dans les yeux de nos parents. Fondant également sa propre firme de graphisme, Virtuel Création, en 1988, Claude Robinson va parvenir à obtenir le financement nécessaire pour développer un projet qui couvait depuis déjà longtemps, soit celui de produire une émission à caractère éducatif pour les enfants.
Mm-hmm.
Une émission qui s'intitulerait « Les aventures de Robinson Curiosité sur son île curieuse ».
Oh!
L'idée a commencé à germer dans l'esprit de son créateur en 1982, pendant une expédition de 2 mois dans le Labrador. Et là, pour citer Claude Robinson, « Le personnage de Robinson Curiosité, c'est moi. Mon visage, mes qualités, mes défauts, mes traits de personnalité... Tous les personnages qui l'entourent représentent des membres de ma famille ou mes proches. » Alors, on sent que c'est très personnel comme projet. Au printemps 1987, Claude Robinson, accompagné de ses associés, s'envole pour Cannes, dans le cadre du marché international des contenus audiovisuels et numériques. Là, il va faire la connaissance du scénariste français Christophe Izard, récipiendaire en France de la Légion d'honneur.
Il est vraiment qu'on y est plus.
Si celui-ci semble d'abord intéressé par le projet, il va finir par l'abandonner, faute de financement de Téléfilm Canada. Ah. Mais Claude Robinson, il baisse pas les bras.
Non.
Et bientôt, le fabricant d'ordinateurs Philips va lui proposer de produire son projet, mais sous la forme de CD-ROM interactifs.
Oh, pas des CD-ROM!
Il y a des CD-ROM interactifs!
Comme Adibou! Ah, c'est normal, fun!
Oui!
Ah, j'aime ça.
Cependant, le projet qui devait être développé en pas moins de 26 langues va être abandonné en 1995, quand Claude Robinson allume sa télé pour visionner Télétoon, une nouvelle chaîne québécoise entièrement consacrée au dessin animé.
Télétoon, c'est québécois?
Mm-hmm.
Ben voyons donc, c'est donc bien trippant ça, je savais pas ça.
C'est le pendant québécois de Cartoon Network.
Oui, 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 ok.
Alors, le 8 septembre 1995... Claude Robinson visionne le premier épisode d'une toute nouvelle série animée intitulée Robinson Sucroé.
Oh ben, c'est donc ben un addon bizarre!
Tout de suite, l'artiste reconnaît son visage, son île et les grands traits de ses principaux personnages, et ce, malgré les tentatives de camouflage de l'œuvre originale. Les auteurs de ce plagiat y étaient pas cachés bien loin, leurs noms sont à la fin du générique. Sinar, et ses deux dirigeants, Micheline Charret et Ronald Weinberg.
Oh, les sacraments!
Que Claude Robinson avait engagé en 1986 pour faire la promotion de son projet aux États-Unis, entre autres auprès des studios Disney. Le générique va aussi révéler que le fameux Christophe Izard, qui avait abandonné le projet, a signé les scénarios de Robinson Sucroé.
Ah, espèce d'emmerdeur!
Alors, en 1996, Claude Robinson dépose une plainte pour plagiat à l'endroit de Sinar et réclame 2 millions de dollars en restitution pour le vol de son œuvre.
Ouais, you do you, Claude Robinson.
Et là, malgré une perquisition de la GRC dans les bureaux de Sinar, la poursuite va être largement ignorée. Micheline et Ron vont tout simplement affirmer qu'ils connaissent pas ce monsieur-là, Claude Robinson, puis maudit qu'il est fatigant avec sa grosse barbe et ses cheveux.
Ouais, mais, on va dire des affaires qui vont nous mettre dans marde, mais ils sont bien tweet.
Pourquoi? Ouais, inquiète-toi pas, on va pas se mettre dans marde parce que moi, j'ai toutes les receipts.
Ah! Mais non, mais je veux dire, il aurait pu camoufler ça mieux que ça, c'est donc ben niaiseux! En plus, c'est sa face! C'est ben tweet!
On ne fait que commencer, ma chère.
Ouais, j'ai déjà pogné les nerfs. Tu me connais, je pogne les nerfs vite, moi.
Et là, dans la fameuse entrevue qu'elle a accordée à Nathalie Petrovski en 1999, Micheline Charret balaie de la main. Pouh! L'affaire, en affirmant que dans son domaine, des poursuites de même, c'est chose courante. Et je la cite.
Mais pas tant que ça, mais...
On travaille dans la création et la propriété intellectuelle. Dans ces domaines-là, les poursuites sont inévitables. Nous avons beaucoup grossi ces dernières années. C'est normal de se faire des ennemis.
Ben, c'est pas normal de voler le travail de quelqu'un d'autre, mais je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle raconte, là, en tout cas.
Et vous allez pas aimer Micheline plus que je vais continuer.
Non, mais je l'aime déjà pas.
Partie 3. Tu me passes ton nom 2 minutes? Claude Robinson, il a pas dit son dernier mot. Infatigable, il se met à analyser le contenu de tous les génériques des séries produites par Sinar. On va le traiter de fou, de maniaque, et pourtant, son acharnement y allait bientôt coûter pas mal cher à Micheline et Ron. Dans le documentaire « La femme qui ne se voyait plus aller », un scénariste employé par Sinar raconte avoir contacté Micheline en 1995 pour obtenir des noms de scénaristes montréalais pour collaborer à une nouvelle production. Dans la liste qu'on lui remet, il y a un nom qui s'avère fabriqué de toutes pièces. À l'époque, la réputation de Sinar qui était assez solide, le scénariste va décider de juste ignorer l'affaire puis il se dit « Ah, c'était peut-être juste une erreur, peut-être même une joke.
Mm-hmm. »
Mais 4 ans plus tard, 2 journalistes vont faire éclater la vérité au grand jour. À l'automne 1999, les journalistes Pierre Tourangeau et Sophie Langlois vont révéler que la fortune bâtie par le couple Charest et Weinberg reposait sur de la fraude. Alors, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, à l'époque, c'est au moins 75% de toute production canadienne qui est financée par des subventions, des avances et des crédits d'impôt. Et dans le cas d'une coproduction avec un pays étranger, la portion canadienne de l'œuvre peut également faire l'objet d'une subvention. Pour obtenir lesdites subventions, il faut prouver que l'argent est bel et bien dépensé au Canada et que c'est des Canadiens qui sont embauchés et payés pour faire le travail. Et c'est cette règle-là que Cynard n'a pas respectée.
Oh, j'aime pas où est-ce que ça s'en va.
En utilisant ce qu'on appelle des prête-noms.
Nah.
Et maintenant, dans ma petite chronique « Faites pas ça chez vous, ça va pas bien finir ».
Oh, nice!
Voici comment ça fonctionne, un prête-nom. Vous engagez personne X pour écrire un scénario. Mais en réalité, cette personne ne va absolument pas écrire un scénario et on va plutôt sous-traiter à l'étranger, aka aux États-Unis, pour écrire le scénario. Une fois le scénario écrit, personne X reçoit le paiement de Cynard et va être la seule personne créditée dans le générique, mais va distribuer l'argent à ses sous-traitants.
C'est comme du ghostwriting pour comme, profiter des argents de les subventions, pour en bon français.
T'as tout compris.
Okay.
Alors, chez Cynard, le prête-nom, c'est monnaie courante et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, si vous êtes un auteur, un artiste, prenez une petite balle dans vos mains puis serrez-la bien fort.
Je pensais que tu disais que le prête-nom qu'il utilisait, c'était monnaie courante. J'étais comme, c'est pas un os. Voir que personne n'avait compris avant.
C'est comme l'aveuglette puis l'étranger, oui. Là. Là, je vais vous expliquer pourquoi le prête-nom est monnaie courante. Si vous êtes une artiste, on prend des petites balles puis on les serre dans nos mains.
J'en ai pas! Ok, parfait. Correct. Serrer les bras de ma chaise.
Selon Micheline Charest, le talent canadien n'est tout simplement pas supérieur à celui des Américains.
Mais voyons donc.
Selon Micheline, du talent au Québec, il y en a pas.
Mais c'est-tu le rapport Durham? Qu'est-ce qui se passe?
Et là, moi, je vais te dire, Micheline, que si t'as pas trouvé de talent au Québec, c'est parce que t'as regardé dans un miroir.
Yo! C'est insultant! Mais c'est ça.
Hey, ya burn! Mais là, de son côté, Ronald Weinberg, qui avait toujours été plus intéressé par les revenus de Cynard que par les productions, va décider de satisfaire sa femme, wink wink, en établissant un système de prête-nom avec l'aide de leur comptable, Asanaïn Panjou.
Ah!
Un homme qu'il avait recruté parce qu'il lui avait été décrit comme quelqu'un qui savait contourner les règles de la comptabilité et un smart bender. En gros, il a étudié la comptabilité bras dessous avec Eric Asselin.
Tu mets ça dans ton CV, ça? Des qualifications étranges!
C'est vraiment quand il a recruté un comptable, la firme qui l'ont recommandé lui ont dit « Ce gars-là connaît les loopholes. »
Nous autres, on voudrait un spécialiste de la crosse. « Ah, oh, je sais exactement qui vous recommander! » Oh mon Dieu!
Là, t'as comme Eric Asselin qui passe à travers la porte. « Yeah!
Yeah! »
C'est qu'on fraude!
C'est pour moi, ça!
C'est une mission pour... Éric Asselin!
Yeah, super comptable!
Et là, parmi les nombreux prête-noms qui ont été employés par Micheline et Ron,
oui.
Il y en a un qui va retenir particulièrement notre attention. Erika Alexandre, qui aurait par ailleurs co-signé les scénarios de Robinson Sucroé avec Christophe Isard. Et une quantité franchement impressionnante de scénarios chez Cynard. C'est pas compliqué, Erika Alexandre à l'époque... C'est la scénariste la plus productive au Québec!
Oh my God!
Oh my God!
Comme Fabienne Larouche!
Si seulement elle avait été une vraie personne!
Ah, si seulement!
En effet, Erika Alexandre, c'est le prête-nom de... Hélène Charest, la sœur de Micheline Charest.
Ah!
Et le nom Erika Alexandre, un simple porte-manteau de Éric et Alexandre, les prénoms des deux fils du couple Weinberg-Charest.
Oui,
tu sais, quand tu utilises les noms de tes enfants pour faire de la fraude, tu penses vraiment que personne peut te toucher. Là.
Mais j'ai une question, par exemple. Pourquoi la personne X, là, au Québec, n'utilise pas son vrai nom comme prête-nom? Moi, je pensais que c'était ça le principe. Pourquoi c'est pas juste Hélène Charest?
Parce que ça serait trop facile à retracer.
Mais pourquoi que ça devait être attaché à quelqu'un de physique? Il aurait pu juste inventer des noms puis inventer des adresses.
Parce que ces gens-là, il y avait un autre emploi chez Cynard.
Oh!
Hélène Charest était comme sur le CA ou quelque chose comme ça. Fait qu'elle fait... Elle aurait comme pas pu avoir deux chaises. Ça aurait été bizarre de dire « Ah, oh, c'est comme la directrice de... C'est la madame qui s'occupe de la paye, mais aussi elle écrit des scénarios. Puis ce gars-là, c'est un caméraman, mais aussi il écrit des scénarios. Puis ce gars-là, c'est un consultant, mais aussi il écrit des scénarios. À un moment donné, il y a quelqu'un qui aurait allumé. Là.
Mais pourquoi ils font pas juste, c'est ça, inventer les noms puis les adresses sans que ce soit rattaché à quelqu'un qui existe?
Pour qu'ils puissent donner l'argent à quelqu'un.
Mais ils donnaient l'argent à ces gens-là pour vrai?
Il y avait un cut, oui.
Mais pourquoi? Excuse-moi, j'ai trop de questions. Il aurait pu juste inventer du monde qui n'existe pas puis garder l'argent pour eux autres?
Il aurait pu juste engager des Québécois puis des Canadiens.
Mais là, ça aurait paru qu'ils déposaient toujours l'argent dans le même compte de banque, par exemple.
Ouais.
Je suis en train de répondre à mes questions dans ma tête. C'est pour ça que je n'ai pas gradué en fraude.
C'est qu'il faut... Ton argent, il faut que tu le distribues, là. Tu peux pas tout le mettre à la même place, sinon il y a quelqu'un qui va allumer en quelque part. Alors, les avocats de Robinson vont tenter d'entrer en contact avec Sinard pour discuter avec la fameuse Erika Alexandre de ses sources d'inspiration derrière Robinson Scrooge.
Ben là, on aimerait savoir.
C'est là que, étrangement, leurs appels sont jamais retournés.
Ah, oh, c'est bizarre.
Mais c'est là que la SACD, la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, va recevoir un appel d'un avocat qui représente une société anonyme qui avoue avoir obtenu de l'argent de manière frauduleuse. Il veut pas dire combien.
Okay.
Et il souhaite procéder à un remboursement, mais toujours sans divulguer qui ils sont. À l'époque, la SACD n'a même pas conscience qu'elle a été victime d'une fraude. Mais je vous laisse deviner que quelques mois plus tard, quand l'affaire a éclaté au grand jour, la SACD se doutait un petit peu de c'était qui voulait rembourser discrètement l'argent qu'ils avaient obtenu et auquel ils n'avaient absolument pas droit.
Sinon.
Yep.
Oh, j'ai tout compris ce qui se passe.
Mais là, Micheline, parce qu'elle a du front tout le tour de la tête.
Nice. Comme Raël.
Oui. Quelques temps après les scandales des prête-noms, elle va se rendre à une conférence de l'Association des MBA du Québec, donc les Master of Business Association.
Nice, mon père était peut-être là. Non, c'est une joke.
Où elle va faire un speech, non pas pour s'excuser d'avoir fait de la fraude, mais pour justifier qu'il fallait qu'elle fasse de la fraude.
Ben voyons donc. En disant qu'on n'a pas de talent au Québec, parce que le Québec est une nation sans culture. Là.
Tu m'enlèves les mots de la bouche. Dans son speech, qui m'a pas du tout donné le goût de pitcher ma TV par la fenêtre...
Non!
Micheline Charest, elle va réitérer que du talent au Québec, il n'a pas, comme des équipes à Montréal n'auraient pu.
N'aurait
et que ce qui compte, c'est pas tant de créer de l'emploi au Québec et au Canada, mais de produire du contenu de qualité qui va faire rayonner le Québec à l'international.
OK.
Selon Micheline Charest. Les programmes d'aide et de subvention sont ben trop hermétiques, ben trop centrés sur le Québec puis sur le Canada, puis ils prennent pas en compte les merveilles de la globalisation.
Hein?
En gros, Micheline est allée brailler parce qu'elle voulait elle voulait avoir le droit d'utiliser de l'argent canadien pour faire des films aux États-Unis. Parce que, tu sais, les Américains, ils ont besoin de notre argent pour faire du cinéma.
C'est ça, j'allais dire. C'est comme le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui avec tous les réalisateurs qu'on chipe aux États-Unis faire des films avec leur argent.
Ouais, mais non. Il y a pas de talent au Québec, fait que j'ai pas eu le choix de faire de la fraude. Comme vous m'avez obligé de faire de la fraude.
Mais c'est dommage. Elle est dans mes tweets, ok.
Non, c'est vraiment de la malhonnêteté, avoir du front tout le tour de la tête. C'est drôle parce que le lendemain qu'elle a fait ce speech-là, là, vous pouvez aller chercher les articles du Journal de Montréal, la presse, le Devoir, puis oh qu'elle s'est faite ramasser à grands coups de pelle.
Mais je comprends donc aussi. Pas gêné.
En bourse, Sinard est en chute libre. Et là, Pierre Lampron, qui était le PDG de la SODEC, il va regarder Micheline dans les yeux, là. Puis il va lui dire, « T'en as-tu d'autres squelettes dans ton placard? » Puis elle va lui dire comme, « Je sais pas pourquoi tu parles. » Non! C'était un mensonge.
Oh non!
Partie 4. Tu me passes-tu ton cash, 2 minutes?
Mais pourquoi pas?
Mais là, avec tout l'argent que Micheline et Ron y obtenaient en subvention, auquel il avait absolument pas droit, il était bientôt assis sur beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Si vous avez répondu « acheter des bagosses et les faire passer pour des dépenses pour la compagnie », félicitations, vous êtes un futur milliardaire!
Yeah!
En effet, suivant les comptables, les conseils de leur comptable pas croche pour 2 cents, Asanaïn Panjou, Micheline et Ron vont régulièrement passer des dépenses mondaines, par exemple, une deuxième maison à Magog, une nouvelle auto, du staff pour la deuxième maison à Magog... comme des dépenses faites pour le compte de Sinard.
Du staff?
Ben oui.
Ben voyons donc, on est-tu dans Downton Abbey?
Quand t'as une grosse maison, tu passes pas à Dyson toi-même, là.
Non, on va prendre bien trop de temps. T'as d'autres choses à faire, comme être condescendante envers les artistes québécois?
Voilà.
Ah,
puis là, on va s'entendre. Quand vous êtes une compagnie privé. Vous avez le droit de faire ça parce que c'est votre argent qui est injecté dans la compagnie. Mais Snor, c'est pas une entreprise privée. Elle est cotée en bourse.
Oui, mais il y a des limites quand même. Tu peux pas t'acheter une deuxième maison puis dire que tu mets ça sur tes dépenses de compagnie quand il y a absolument aucune activité de compagnie qui se passe là.
Non, faut au moins que t'aies un bureau.
Je suis sûr que je comprenais ce bout-là. Voilà, c'est sûr.
Mais sinon, c'était pas une entreprise privée. Elle est cotée en bourse et elle bénéficie d'investisseurs qui injectent de l'argent dans Snor pour l'aider à grandir et à s'établir.
Mais peut-être qu'ils ont demandé à tous les investisseurs si ça leur tentait de financer leur maison puis qu'ils ont tous dit oui.
Oh, Catherine!
Oh!
Bless your heart!
Yay!
Alors, quand on est une compagnie cotée en bourse, on ne peut pas se réapproprier les fonds de la compagnie comme ça.
Mais c'est bien dommage.
Et là, suite aux révélations concernant les prête-noms, les investisseurs de Snor, ils ont un petit peu peur. Ils n'aiment pas ça, ces histoires-là.
Mm-hmm.
Alors, ils vont demander à ce qu'une enquête soit faite sur la gestion des fonds de Snor. Au printemps 2000, une enquête de vérificateurs indépendants va permettre de découvrir que 122 millions de dollars américains ont été détournés dans deux entreprises enregistrées aux Bahamas, et ce sans aucune autorisation du conseil d'administration de Snor.
Non!
Yep! Suite à ces révélations, Asanayin Panjoo va être congédié, et Micheline et Ron vont être écartés du conseil d'administration, en plus de risquer des poursuites aux criminels.
Non, mais tu sais, il aurait pas pu logiquement amener ça devant le conseil d'administration parce que là, c'est sûr que le conseil d'administration aurait dit non. Je comprends, ce bout-là, ça s'explique.
Il aurait fait fuck all the way off.
Ben là.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même l'histoire des prête-noms et du détournement de fonds, la GRC avait ouvert à deux reprises des enquêtes criminelles qui visaient Snor, Micheline Charest et Ronald Weinberg par rapport au vol de la propriété intellectuelle de Claude Robinson. Une première perquisition dans les bureaux de Snor avait eu lieu en 1995. Et, selon le sergent-détective Alain Lacourcière, elle a été menée à n'importe comment. En effet, un enquêteur de la GRC s'est présenté chez Snor avec un mandat de perquisition. Mais l'employé qu'il reçoit l'informe que il tombe vraiment mal, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Il demande d'avoir un bon 5 jours pour préparer leur dossier. T'sais.
Ben voyons donc!
Puis l'enquêteur, il dit « Ah, pas de trouble, je reviens dans 5 jours, bye! »
Ben là, monsieur...
En fait, il a même pas dit « Monsieur! » On va venir dans 5 jours. Il a dit « Oh non, appelez-nous quand vous êtes prêts. »
Ben voyons donc.
D'habitude, quand une entreprise est suspectée de mal gérer ses fonds, on essaye de faire des saisies le plus rapidement puis le plus discrètement possible pour éviter qu'une couple de dossiers se ramasse dans des chiqueteuses.
Mais là, ça c'est comme « Monsieur, vous êtes accusé de meurtre, on voudrait faire une perquisition dans votre maison. » Puis le monsieur est comme « Non, non, mais comme revenez dans une semaine, le temps que je puisse enterrer le cadavre puis aussi me débarrasser des preuves. » Voyons donc! Mais c'est double tweet! OK, oui.
Puis, pendant cette enquête, la GRC va retenir les services de Danielle Aubry, une professeure du département de communication de l'UQAM, pour consulter la preuve montée par Claude Robinson. Mais Madame Aubry, c'est la belle-sœur du vice-président de Snor.
Hey, c'est un léger conflit d'intérêts!
C'est un immense conflit d'intérêts!
Oh!
Puis en plus, la madame, elle va prendre 2 jours... pour consulter les centaines de pages du rapport qui ont été rédigées par Claude Robinson.
Moi aussi, je l'évite de même.
Elle va finir par trancher que « Nope, pas de plagiat là », puis la GRC va dire « Merci madame, on ferme l'enquête ».
Mais voyons donc. Y avait-tu quelque chose d'autre de bien important que la GRC faisait dans ce temps-là qui justifie qu'il y ait comme complètement botché cette histoire-là ou
écoute,
rien
partout? Je vais te révéler quelque chose dans 30 secondes.
Oh yes.
Quand une nouvelle enquête est ouverte en 1999, celle-ci demandée par Sheila Copps, ministre fédéral du patrimoine, cette nouvelle enquête va à nouveau être fermée avant même que soient interrogés les dirigeants de Snor, de France Animation, de Ravensburger et de la BBC. Et là, on apprend que Micheline Charest, elle était en charge de la campagne de financement pour la réélection de Jean Chrétien.
Ben voyons donc!
Et dans l'épisode d'enquête, on voit Jean Chrétien faire un long speech où il chante les louanges de Micheline Charest.
Ben voyons donc!
On soupçonne!
Avec sa gueule tout croche?
Alors, on a le droit de soupçonner une légère interférence politique dans les dossiers de la GRC. Puis dans l'épisode d'enquête, la GRC sont comme « Voyons donc! »
C'est de l'ingérence!
Mais là, pourquoi vous dites ça?
Maintenant, c'est au tour de la Commission des valeurs mobilières du Québec, la CVMQ, de coincer Micheline Charest et Ronald Weinberg. Mais eux, pas pour le plagiat, mais pour le détournement de 122 millions des fonds des investisseurs.
Oui.
Là, on est en 2001.
122
millions. US.
C'est 2 millions de plus s'acheter de la poutine puis des ramen. Non, mais 122 millions US.
Et là, 7 fois.
Wow! Il y a du monde qui meurt de faim, là. Ça n'a pas de sens, en tout cas.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nord va reconnaître sa responsabilité dans l'affaire des prête-noms et du détournement de fonds et va s'employer à régler le dossier avec le fisc canadien et québécois. En plus, Micheline et Ron sont condamnés à verser un don de 1 million de dollars chacun à la CVMQ. Et je dis un don parce que ce paiement n'a jamais été qualifié d'amende. On a toujours dit que c'était un don.
Disons bien du PR bullshit, c'est ça, là.
Par contre, ils vont être bannis de diriger une entreprise cotée en bourse pour les 5 prochaines années.
Ah, oh, ben, OK.
Et puis là, la CVMQ, là, chose à noter, s'il avait fait preuve de plus de rigueur à l'époque, là, Norbourg, ça serait jamais arrivé. Parce que Norbourg, c'est arrivé 3 ans après.
Mais à quoi ça sert de faire preuve de rigueur quand tu peux laisser les affaires entertaining comme le scandale de Norbourg arriver?
Mais là, tu veux-tu la cerise sur le Sunday?
Ah, il y a pire que ça, oui.
Même s'ils ont été renvoyés de Cynar pour avoir détourné les fonds de leurs investisseurs, Micheline et Ron sont toujours propriétaires de 12% des actions de Cynar et 63% des droits de vote. Et pour ce qui est de Cynar, ben, Téléfilm Canada, ils jugent que le 2 millions qu'ils ont donné à la CVMQ, c'était une grosse punition, puis ils sont clairement très repentants.
Non!
Alors, Téléfilm Canada va décider de retirer Cynar de sa liste noire, et Cynar peut à nouveau bénéficier de financement public.
Ben non!
Yes, madame!
Ben non, plus jamais! Plus jamais, voyons...
Ok, oui!
Mais saisissez leur maison! C'est quoi leur problème? Je comprends pas! Ils n'ont pas besoin d'en avoir deux, premièrement. Ça a été acheté avec l'argent des contribuables. Je suis fâchée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Toutes les fois, je pogne les nerfs!
Mais là, je vais te faire une parenthèse. La parenthèse s'intitule « Une coalition de Claude ».
OK. Bon, ça a l'air d'une parenthèse de fun, ça. Je suis prête à écouter.
Oui, oui, oui. Parce que moi, si je détournais 122 millions à ma job, je serais renvoyée et je rusherais anti-pépère pour me trouver une nouvelle job.
Je veux pas dire pour qui tu travailles, mais ça m'étonnerait qu'ils ont déjà fait 122 millions dans une année, là, ces gens-là. Excuse-moi, là, mais on est dans le domaine du livre, là. On est pauvres en esti. Ça, c'est mon autre rant sur le milieu de l'édition. Oui.
Ben oui, puis en plus, il n'y a pas de talent au Québec.
Ben là, ça rend ça encore plus difficile de faire des livres.
Hey. Mais en 2002, soit un an à peine après avoir reconnu sa responsabilité dans la pléthore de scandales qui se sont abattus sur Cynar, Micheline Charest, elle se retrouve du travail.
OK.
Cette fois-ci auprès de...
Non. Télétoon?
Juste pour rire. C'est Gilbert Rozon lui-même, personnellement.
Non!
Mais là, moi... Quand je me suis levée ce matin, je me suis dit que j'avais pas le goût de me faire poursuivre, fait que je vais absolument rien dire sur Gilbert Rozon.
Merci de m'avertir, j'allais dire de quoi, mais je vais pas le dire. On le salue!
C'est lui-même, personnellement, qui a engagé Madame Charest parce qu'il la qualifie de méga talent, et c'est pour développer le volet international de Juste pour rire.
Je peux-tu dire de quoi?
Vas-y.
Là, j'aimerais qu'on fasse mon éducation. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, écrivez-moi un peu de crime à gmail.com. Qu'est-ce que ça fait exactement de la production à part donner du cash?
Ça donne du cash.
Mais t'as pas besoin de talent pour donner du cash!
Oh my god, Catherine, est-ce que t'es en train de remettre en question les décisions de Gilbert Rozon?
Non, je suis en train de remettre en question ce titre-là qui apparaît vraiment très tôt dans le générique de toutes les hosties d'émissions de TV. Puis je comprends pas qu'est-ce que ça fait à part donner du cash. Je connais certaines personnes qui sont dans le milieu du divertissement au Québec. Puis j'ai l'impression que c'est juste ça la job de la prod.
Ouais, ben tu choisis les projets, puis c'est toi qui choisis dans quoi t'investis. Ouais. Fait que t'es comme un investisseur.
Ben c'est ça, tu donnes l'argent, puis à la fin, tu as comme un droit de regard sur quand c'est fini complètement, puis là, t'es comme, oh ouais, c'est le fun. Ouais. Mais je veux dire, t'as aucun input sur le processus créatif là-dedans. T'as pas besoin de talent pour faire ça. Si tu pourrais le faire en jouant à pile ou face.
Ben t'as quand même du input parce que, genre, la raison pour laquelle le film Dune de David Lynch est aussi scrap, c'est à cause de la production, parce qu'il était tanné de donner de l'argent, puis on dit, OK, wrap this up, puis on est tanné, là.
Ah ouais, mais t'as ce input-là, mais je veux dire, c'est pas toi qui écris, c'est pas toi qui scénarise, c'est pas toi qui réalise, non. Tu joues pas dedans, tu fais pas la musique, tu fais pas le montage, C'est pas ça.
T'as du talent pour reconnaître le talent. Mais Micheline, elle trouve qu'il n'y a pas de talent au Québec.
En tout cas, tu fais même pas le casting! Tu fais rien! OK, voilà. C'est la fin de mon rant sur c'est quoi la production. Fait que si vous travaillez en prod, là, écrivez-moi puis expliquez-moi pourquoi ça vaut la peine d'exister, cette histoire-là.
Mais là, si, comme Catherine, vous êtes en train de pogner les nerfs...
Non, à peine.
Ben, vous êtes pas tout seul. Parce qu'en guise de protestation, et pour montrer sa solidarité avec Claude Robinson, il y a un autre Claude qui va faire entendre son mécontentement face à l'embauche de Micheline Charest chez Juste pour rire. Tu veux-tu deviner quel Claude?
Claude Poirier. Non, je sais pas. Qui?
Claude Legault.
Ah! Moi, ça a bien plus de bon sens. Claude, un petit gars de chez nous. Tellement de talent.
En 2002, Claude Legault va se désister du mondial de la Ligue d'impro. Et ça, malgré son statut de joueur étoile de la LNI.
C'est ça j'allais dire. Il torchait vraiment beaucoup à la LNI, Claude Legault. J'aimais ça quand ça jouait à la TV. Je sais pas si ça joue encore parce que ça fait très longtemps que j'ai plus le câble, mais j'écoutais tout le temps ça.
C'était le fun, surtout quand il y avait Claude Legault, Réal Bossé.
Oui, il était très bon. Stéphane Crête était très bon.
Je vais citer Claude Legault, qui est cité lui-même dans une chronique de Yves Boisvert.
Vas-tu faire une imitation de Claude Legault?
Non, je suis pas très bonne.
Ah, OK, moi non plus, mais okay, j'aurais aimé ça.
Pour citer Claude Legault, « Moi, j'ai pris le parti de croire Claude Robinson. Parce que je crois Claude Robinson, je ne peux pas travailler pour la même boîte que Micheline Charest. Je ne trouve pas ça génial ni crédible. »
Hey, c'est le fun, le monde qui ont des principes, j'aime ça.
Mais c'est Gilbert Rozon, le boss, il a le droit de faire ce choix-là. Moi, j'ai le droit de dire non. Je peux me le permettre, j'ai d'autres contrats. Mais c'est douloureux. J'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit à une deuxième chance ou que Gilbert Rozon n'a pas le droit de la lui donner, mais moi, je suis simplement pas obligée de travailler avec elle. Ce qui est arrivé à Claude Robinson, ça aurait pu arriver à moi, ça aurait pu arriver à un de mes amis.
Je peux pas croire que tu me fais encore plus aimer Claude Legault que je l'aimais déjà. C'est donc bien incroyable, ça!
Claude Legault, à l'époque, avait déjà des crédits d'auteur. C'est en plein dans une galaxie près de chez vous, là.
Oui, oui.
Ah non, Claude Legault, là, j'ai comme inclus cette parenthèse-là parce que je voulais te dire à quel point Claude Legault a toujours été vraiment cool.
Mais le chapeau, c'est très intègre comme move puis comme sortie publique. Puis effectivement, il fait bien de souligner que lui, il peut le faire parce qu'il a le privilège d'avoir d'autres contrats qui, tu sais, 10 sur 10.
Parce que à l'époque aussi, dans les articles que j'ai trouvés autour de l'embauche de Micheline Charest, juste pour rire, ça disait qu'il y a beaucoup d'autres actants du milieu qui étaient vraiment pas d'accord avec ça, mais qui osaient pas dire quelque chose parce qu'ils avaient peur de perdre leur job. Ouais. Claude Legault, il est monté aux barricades, puis je trouve ça vraiment cool et admirable. Comme, chapeau Claude, on t'adore!
C'est ça, tu sais, le monde capote aujourd'hui sur la cancel culture, là, mais je veux dire, ça prendrait plus de gens comme Claude Legault pour dire « ben moi, je décide délibérément de me retirer de ce projet à cause de telle personne problématique. Oui, j'ai le privilège de le faire, puis il y a bien du monde qui pourront pas, puis c'est pas de leur faute. C'est ma décision, c'est mon droit. Je trouve ça génial comme move. Bravo! Bravo, Claude! Moi, je l'aime, Claude Legault! »
Mais là, partie 5. Plot twist!
Encore?
Maintenant, on est en 2004. Cynar, c'est une patate chaude pour ses investisseurs, et on va finir par la vendre à un homme d'affaires torontois, Michael Hirsch, et on va y vendre pour la modique somme de 190 millions.
Ben voyons donc!
Et là, pour essayer de distancier Cynar de ses scandales passés, on va la rebaptiser Cookie Jar Group.
Wesh, qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là? C'est bon, ils n'ont pas fait appel à des talents québécois, pas à tout pour trouver ce nom-là. Je peux te garantir ça. Cookie Jar Group!
Genre le groupe...
Ah, group! Ah, je pensais à Brew comme de la bière. J'étais comme tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? OK, Cookie Jar Group, c'est bien moins pire, excusez. Je retire ce que
si y a des brasseurs, brasseuses qui nous écoutent, s'il vous plaît, pas de bière à saveur de pâte à biscuits, ça nous
intéresse pas. De biscuits? Non, il y a des limites, là.
Et là, cherchant, elle aussi, à se distancier des nombreux scandales qui la suivaient partout, Micheline Charest décide de faire peau neuve avec une triple chirurgie plastique, soit une réduction mammaire, une liposuction et un lifting du visage.
Nice! C'est une bonne combinaison!
Mais là, l'entourage de Micheline est un petit peu étonné par la décision de cette dernière, parce qu'elle a 51 ans, mais c'est une grande sportive, et elle n'était pas très coquette, Micheline. Et selon le témoignage d'un ancien actual scénariste de Cynar, elle était très sexy!
OK. Elle avait des beaux cheveux en triangle avant, et depuis avoir
des beaux cheveux rouges agencés avec son power suit rouge.
Ben, moi aussi, j'aurais fait ce move-là.
Et là, son entourage va être renversé quand le 14 avril 2004, on apprend que Micheline est décédée des suites de sa chirurgie.
Oh
l'enquête du coroner Jacques Ramsey soulève encore plus de questions que de réponses. Selon lui, la mort de l'ancienne grande patronne de Cynar aurait facilement pu être évitée. Selon le rapport de Ramsay, okay. Micheline se portait très bien à la suite de son opération. C'est cependant lorsqu'elle a été transférée en salle de réveil que le taux d'oxygène dans son sang a chuté à 44% sans que les infirmières ne s'en aperçoivent. Oh selon non. le coroner, l'alarme du saturomètre n'était pas allumée, ce qui signifie que 20 minutes se sont écoulées avant que les infirmières ne viennent au secours de Charret. Et 10 autres minutes se sont écoulées avant que l'on avertisse Maurice Trahan, l'anesthésiologiste, un délai tout à fait inexplicable selon M. Ramsay.
Est-ce que c'est une coïncidence?
Le coroner va aussi déplorer que 35 autres minutes ont passé. Là, ça fait 1h05 que Micheline Charret est en détresse respiratoire. Là. Ont passé avant qu'une ambulance ne soit finalement contactée par le personnel de la clinique. Suite au décès de Madame Charret.
Écoutez, on se tue une super grosse manigance pour la tuer, c'est le meurtre sur l'Orient Express, puis tout le monde est coupable.
Suite au décès de Madame Charret, le coroner dénonce l'absence de notes à son dossier. Aucun suivi, aucun détail concernant son opération. Pour sa part, la clinique de chirurgie esthétique Notre-Dame a toujours refusé d'émettre quelques commentaires que ce soit sur l'affaire. Quelques mois après le décès de Micheline Charret, l'anesthésiologiste Maurice Trahan quitte la profession suite à une enquête du Collège des médecins. Si le frère de Micheline, Marc, a tenté de faire pression sur le ministre de la Justice de l'époque, Yvon Marcoux, pour poursuivre aux criminels la clinique ainsi que son personnel, aucune démarche ne sera jamais entreprise pour trouver le véritable coupable dans cette affaire.
J'avoue que ça, il avait l'air d'avoir de la négligence. Ouais. C'est quand même pas une façon très plaisante de mourir, ça. Là.
Partie 6. Comme Marjo, je lâche pas!
Ah!
Alors, à ce point de l'histoire, la GRC et la CVMQ n'ont pas été à même de traîner feu Micheline Charret et Ronald Weinberg devant les tribunaux. Mm-hmm. Même si ceux-ci ont été écartés de la direction de l'entreprise qu'ils avaient autrefois fondée, ils n'ont eu qu'à payer 2 millions à la CVMQ et les investisseurs de Cynar n'ont d'autre choix que d'accepter qu'ils ne reverront jamais leur argent.
Oh non.
La majorité d'entre eux ont baissé les bras.
Oh non!
Mais pas Claude Robinson. Parce que même si on l'a longtemps traité de fou, de maniaque, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Claude Robinson, le vol de son œuvre, c'était plus que ça. C'était carrément un vol d'identité. Comme je l'ai dit plus tôt, le personnage de Robinson Curiosité, c'était lui, physiquement et mentalement.
Ouais.
Weinberg et Charret lui ont volé son identité. Claude Robinson, il voulait pas juste qu'on admette qu'on lui a volé son œuvre. Claude Robinson voulait qu'on lui rende Claude Robinson.
Ouais, je comprends.
Puis là, en 2008... Les efforts de Robinson vont être récompensés parce qu'on ouvre le procès de Cynar pour plagiat.
Yay! Enfin!
Let's go to court!
Yes!
Pendant le procès, on apprend que chez Cynar, le mensonge, la tricherie et la fraude, c'est pas mal systématique.
Oh ben tiens, tu m'étonnes!
Le 12 mars 2008, on apprend que Téléfilm Canada a omis de divulguer près de 84 documents potentiellement gênants pour Cynar quand elle a comparu en cour supérieure en 1996 pendant la première poursuite judiciaire entamée par Claude Robinson. De ce nombre, 6 documents demeurent toujours introuvables. Et ce, malgré les requêtes faites par le conseil d'administration de Téléfilm en vue d'une enquête interne qui a été menée en 2000 pendant la deuxième tentative de poursuite de Claude Robinson.
Ouais.
Ces révélations sont faites par Hélène Pelletier, une ancienne membre du conseil d'administration de Téléfilm Canada, qui avait dû témoigner pendant la deuxième enquête de la GRC. Madame Pelletier s'est alors dit inquiète que des documents aient ainsi disparu. Et c'est Claude Robinson qui avait sonné l'alarme à Madame Pelletier quand il lui avait déclaré que ses démarches faites auprès de l'ancien directeur général de Téléfilm, François Macerola, étaient demeurées sans réponse. À force d'insister, Madame Pelletier avait réussi à obtenir 78 des documents manquants, accompagnés d'affidavits stipulant que « Oups, c'est une erreur! Hihi! »
Oh my God!
Autre tentative de cover-up.
Oui.
On apprend qu'avant même de mener sa deuxième enquête, la GRC était en possession de témoignages assez compromettants à l'endroit des agissements de Cynar. Parmi ces témoignages, on retrouve celui de Seth Willinson, un ancien consultant chez Cynar qui affirme qu'il est impossible que Ron et Micheline ne connaissent pas Claude Robinson parce qu'il a personnellement assisté à des réunions où les trois étaient là.
Mais là...
Selon lui, Ron et Micheline connaissaient Claude Robinson depuis au moins 1986 et avaient communiqué ensemble plus de 30 fois au sujet du développement de la série Robinson Curiosité. Le document de la GRC cite également Cheryl Blakeney, qui a été, en 1989, l'adjointe administrative de Ronald Weinberg. Le témoignage de Madame Blakeney est d'autant plus intéressant qu'il permet de faire la lumière sur la responsabilité de France Animation dans l'affaire. La dame affirme avoir préparé un dossier de présentation pour Weinberg avant que celui-ci parte en France pour proposer des séries à développer pour d'éventuelles collaborations entre Cynar et France Animation. Dans le dossier, on retrouvait les documents de présentation de Claude Robinson. Documents qui n'auraient jamais dû être entre les mains de Weinberg et Charest à cette époque parce que leur entente avec Robinson était à terme et ils auraient dû être détruits. Et Madame Blakeney, elle a participé à l'épisode de Enquête et elle a dit « J'ai témoigné à la GRC, je ne comprends pas pourquoi ce témoignage-là est jamais allé en nulle part. »
Parce que la GRC ont fait n'importe quoi.
Un autre témoin va également incriminer France Animation dans les magouilles des prête-noms. Et ce témoin, c'est... Luc Dionne!
Oh my god! Notre bref! Pas vraiment, mais Luc! Yeah!
À l'époque, Luc était le président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, donc la SACD. Il se souvient avoir eu une conversation avec Christophe Izard, au cours de laquelle le scénariste français lui a dit qu'il savait pas c'était qui Erika Alexandre, avec qui il partageait les droits d'auteur sur la série Robinson Sucroé. En véritable détective! Luc Dionne s'est rendu en France pour consulter le dossier de la SACD française au sujet de Christophe Izard.
Oui, en ce moment, il était motivé.
Hey, t'écris tes séries policières ou tu ne l'écris pas?
Mais là, je comprends pas c'est quoi son cheval dans cette course, lui. Là. Pourquoi il s'implique à ce point-là? C'est qui a l'affaire?
Probablement qu'il connaissait Claude Robinson.
Ah, mais je veux dire quand même. En tout cas.
Écoute, il y avait peut-être d'autres choses à faire en France aussi. Là, t'sais, la Tour Eiffel, c'est bien beau.
Oh, oh, oh! Les croissants, les baguettes...
Dans le dossier, il est écrit noir sur blanc que Christophe Izard avait été personnellement entré en contact à plusieurs reprises avec Erika Alexandre pour discuter de leur pourcentage de redevances sur la série Robinson Sucroé.
OK.
C'est donc clair que Izard était parfaitement au courant qu'Erika Alexandre n'existait pas. Sauf si Ron et Micheline étaient vraiment bons pour faire des voix au téléphone.
Oui, bonjour, ici Erika Alexandre.
Mais voyons donc.
Toujours dans
il était peut-être bon comme nous autres pour faire des voix.
Toujours dans le clan de Claude Robinson, on va retrouver un doctorant en sémiologie de l'UQAM, Charles Perraton, qui a dédié près de 600 heures à analyser les œuvres. L'avis de ce dernier est formel.
Voir que ça sert à ça, un doctorant en sémiologie, c'est dommage fun.
Hey, go, Megan, go!
Yeah, go!
dans le fond, il a passé 600 heures à analyser l'œuvre de Cynar et le projet de Claude Robinson. Et il est formel. La série de Cynar est en tout point une reprise de l'idée de Claude Robinson. Dans son analyse, il révèle que 12 des 14 personnages secondaires de la série sont des reprises directes des personnages développés par Robinson.
Ah, c'est incriminant, ça.
Que la structure ainsi que les relations entre les personnages sont identiques, que des éléments du scénario de base, des noms de personnages et même des titres d'épisodes sont exactement les mêmes que ceux qui avaient été imaginés par Claude Robinson.
OK, ça, c'est juste niaiseux. C'est juste paresseux de la part de Cynar, là.
Attends, Catherine.
Puis de Christophe Izard de ne pas avoir adapté ça, oui.
Dans un des titres, Claude Robinson avait fait une faute d'orthographe.
Oh non.
La faute d'orthographe était dans Robinson Sucroé.
Ben voyons donc! OK, ça c'est le niveau suivant de paresse.
Dans le clan de la défense, on a plutôt recours à une experte en statistiques pour analyser les similitudes entre les deux œuvres.
C'est quoi les chances statistiquement qu'on ait volé tout ça, là?
Qu'on soit des pas fins, mettons.
C'est plus haut ou plus bas que se faire frapper par la foudre?
Alors, Ruth Corbin va démolir le rapport de Perraton en affirmant que le nombre de similitudes n'est pas assez important pour conclure à du plagiat. Mais l'avocate de Claude Robinson, maître Florence Lucas, va mettre en doute la méthodologie employée par Corbin pour en venir à ses conclusions.
Okay.
Après tout, dans les litiges qui concernent les droits d'auteur, on recourt habituellement à une approche qualitative et non quantitative pour juger des similitudes entre deux œuvres.
Ouais, effectivement.
Donc, c'est la qualité de la copie et non le nombre de fois que l'idée a été reprise qui doit prendre le compte.
C'est vrai, hein? Oui. Je suis d'accord!
Ça fait ben, du sens, ça fait
c'est ça, moi je connais pas ça, moi il y a juste certains cas de plagiat dans la musique, que je connais plus pour des raisons qui m'échappent totalement. Sûrement parce que j'écoutais l'émission de
il y en a eu beaucoup Patrick Masgourian.
Oui, il y en a eu beaucoup, mais j'ai déjà écouté un reportage à Radio-Can là-dessus. Puis c'est ça, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, tu peux analyser les patterns comme des répétitions et tout. Puis ça, c'est très qualitatif, c'est pas quantitatif, effectivement.
C'est ça, on peut pas dire le nombre de fois que t'as utilisé un drum beat, là.
Non.
C'est comme, t'as utilisé le drum beat, oui
ouais,
ou non.
Ouais, c'est ça. Est-ce que la mélodie est la même, oui ou non? Pas la quantité de fois que ta mélodie...
Pas le nombre de
non,
notes.
Non, c'est ça.
Dans le fond, Maître Lucas conclut que c'est clair que Sinard a essayé d'employer cette méthodologie-là pour banaliser l'importance des similitudes. Une autre tactique du clan adverse, ça va aussi être de placer les œuvres de Sinard et de Robinson dans la lignée des œuvres qui se sont inspirées de Robinson Crusoe, le roman de Daniel Defoe qui est paru en 1719.
Mon Dieu, bonne chance avec ça!
Et là, puisque l'œuvre de Defoe fait maintenant partie des droits communs, il est parfaitement légitime pour un artiste de s'en
ouais,
inspirer.
Je veux pas dire de la merde, là, mais Robinson Crusoe, il y a juste deux personnages. Il y a pas 14 personnages secondaires récurrents, dont 12 communs.
Il y a juste Robinson, puis...
Mercredi, mais qui s'appelle Vendredi?
Dans le roman, c'est Mercredi, puis dans la série, c'est Vendredi.
Pour vrai? Wow, j'ai un cas de comme... C'est comme les Berenstain Bears, là. C'est un faux ouais. Souvenir. OK. Wow.
De plus, on observe que la majorité des œuvres produites par Christophe Izard, par exemple L'Île aux enfants et les Poi-Poi, s'inscrivent dans la lignée de ce que Marx avait appelé les Robinsonades.
Les Poi-Poi.
Les Poi-Poi. P-O-I accent tréma.
Poi-Poi!
Poi-Poi!
C'est ça ce nom-là? OK.
Puis là, une autre... Oui. On va utiliser des guillemets ici. Experte. En oui. Émission pour enfants, Louise Dansereau, une ex-responsable des programmes chez Canal Famille, va témoigner en faveur de Sinard en affirmant que le projet de Robinson et l'émission Robinson Sucroé partagent juste quelques vagues similitudes. Selon elle, si les séries se ressemblent, c'est parce qu'elles ont la même source d'inspiration, le roman de Daniel Defoe, et parce qu'il s'agit de deux produits qui s'adressent à des enfants.
Non, je suis pas d'accord avec ça, pas en tout, oui. Il aurait dû me demander d'aller témoigner en tant qu'expert. J'avais 17 ans.
T'aurais juste fait non. Ah, non. Puis Madame Dansereau, elle a dit que Charles Perraton, dans son rapport, utilise du vocabulaire beaucoup trop complexe.
Oui, mais c'est un universitaire qui fait un doc en sémiologie. Il essaie de vivre aussi.
Mais inquiète-toi pas, parce que Maître Florence Lucas, c'est toute une avocate. Elle va donc torpiller la crédibilité de Louise Dansereau, parce que dans un premier temps, Dansereau, c'est une amie intime du couple Charest-Weinberg.
Ben non, voyons donc!
Elle a assisté à plusieurs parties privées dans leur deuxième domicile de Magog pendant les années 90.
Hey, sacrament! Des claques qui se perdent dans cette histoire-là!
Et puis, on apprend que le rapport de Dansereau n'a été produit que 6 mois après qu'elle ait visionné la série Robinson Sucroé, et que parmi les 57 heures qu'elle a facturées à Sinard pour produire son rapport, elle en a passé 54% avec Maître Mikus, un avocat de la firme Sinard. Alors aussitôt, Maître Lucas va questionner Madame Dansereau pour savoir si elle a écrit son rapport elle-même ou si elle a juste écrit ce que les avocats y ont dicté.
Moi, je vote pour l'option B. Je l'ai découragée.
Et Maître Florence Lucas, elle va vraiment tenir à son approche qui vise à miner la crédibilité du camp adversaire.
Oui.
Pendant ces périodes de questions, elle va porter un méchant coup à la réputation de Christophe Izard. Tout d'abord, elle va démontrer que celui-ci a menti dans son CV, parce qu'il y affirmait qu'il avait été nommé en 1991 directeur artistique de France Animation, mais à l'époque, il était seulement pigiste.
OK.
Ensuite, Maître Lucas va questionner Izard sur le personnage Gertrude Van Boom Boom, qui porte le nom de deux personnages qui ont été créés par Robinson dans le cadre du projet Curiosité.
Donc, Gertrude Van Boom Boom. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi je suis trop drôle demain. Oui, Gertrude Van Boom Boom.
Les personnages s'appelaient Gertrude et Boom Boom.
Ah!
En bonne personne qui n'a rien à se reprocher,
oui.
Christophe Izard va livrer 3 témoignages complètement différents.
Excusez, je suis partie avec Gertrude Van Boom Boom. Oui, excusez, je suis plus capable. Oui.
On achève. Alors, dans un premier temps, Christophe Izard affirme... On va y arriver. Prends un grand respire.
Que continue. Je vais arrêter de rire quand ça va être moins drôle.
Dans un premier temps, Christophe Izard affirme avoir été inspiré par la chanson d'Henri Salvador, Monsieur Boum Boum.
Évidemment.
jamais en voyant. C'était number one au 8 parages.
Je suis pensée.
Dans un deuxième témoignage, il va plutôt attribuer l'origine du nom au clown Boom Boom, créé
par...
Le clown Boom Boom est un personnage créé par le danseur et acrobate espagnol Jérôme Madrano, une figure vraiment marquante du cirque.
Mais Boom Boom des pierres à feu, lui!
J'arrive!
Ah, ok, je t'ai comme étant caillette ici! On est rendu loin en tabarnouche avec les jokes de Boom Boom, ok, oui.
Et pendant son troisième témoignage en janvier 2009, Izard déclare avoir repris le nom de la série Les pierres à feu.
Bon, si c'était plus évident, là, Izard! Christophe, mon cher, oui.
Mais c'est là que la trappe de Maître Lucas va se refermer sur Christophe Izard. Parce que pendant son contre-interrogatoire, Izard va confirmer à Maître Lucas qu'il a connu la version de la série des pierres à feu qui a été adaptée pour le marché français. Mais en France, le fils d'Arthur Laroche, il s'appelle pas Boom Boom, il s'appelle...
Il s'appelle comment?
Bam Bam.
Bam Bam? Oh non, Bam Bam!
Alors... C'est un massage.
Oh, il s'est tiré dans le pied, Christophe.
Ah oh, oui, comme un grand.
Il aurait dû rester avec les références à Henri Salvador.
Alors, Maître Lefebvre, qui est l'avocat de la défense,
oui.
Lui, il cherche à défendre Robinson Scroé en minant la crédibilité du projet de Claude Robinson. Parce que selon lui, l'œuvre de Claude Robinson, c'était juste une suggestion, c'était juste comme un début d'affaire. Tandis que Robinson Scroé, c'est un projet abouti sur lequel ont travaillé scénaristes, illustrateurs, animateurs. Alors selon lui, il n'y a pas de mal à s'inspirer d'un simple concept pour en faire une œuvre aboutie. Puis moi là-dessus, j'ai dit de manger de la merde.
Mais là, excuse-moi, c'était bien plus qu'un simple concept s'il y avait des noms d'épisodes avec des typos qui ont été reproduits.
Non, si vous regardez l'épisode d'enquête que je vous conseille chaleureusement, vous voyez que Claude Robinson, là, il y avait... Tout prévu, là, tout était dessiné, c'était prêt à être porté à l'écran. Là.
Je vais le regarder quand je vais arrêter de pleurer à cause de Gertrude Van Momo.
C'était un projet qui était presque abouti, il restait juste à trouver un producteur. Là. C'était juste
mais
ça qui manquait
donc.
À son projet. Là.
Okay.
Il y a même des
ouais,
dessins,
monsieur.
Il y a même des études pour des figurines, puis du matériel à distribuer.
Oh, wow.
Là. Comme ces scénarios étaient écrits, tout était prêt. Là. Alors finalement, le 27 août 2009, après 14 ans de bataille juridique, le juge Auclair va livrer son verdict.
Oui, puis...
Est-ce que tu veux deviner, dans la grande tradition d'un peu de crime dans ton café?
Coupable.
Les titans de la télévision jeunesse Cynard, France Animation, Ravensburger et autres sont jugés coupables de plagiat et sont condamnés à verser 5,2 millions de dollars au dessinateur québécois Claude Robinson.
Ah, oh, c'est merveilleux, ça!
Ils doivent également remettre toutes les copies existantes de la série, tous les dessins, toutes les planches, à Robinson, qui est libre de faire ce qu'il veut avec.
Ah, oh, c'est tellement la bonne nouvelle Sylvia de la journée, là, ça. Wow!
Dans son jugement, Auclair est lapidaire. Il estime que la conduite des défendeurs est outrageante, préméditée, délibérée, scandaleuse, infâme et immorale. Sur les 12 millions que
j'en passe.
Et j'en passe! Sur les 12 millions que réclamait Claude Robinson, on ne lui en accorde que 5,2.
Ah, oh, c'est plate. Tu pensais qu'il en réclamait 2? J'étais contente qu'il avait gagné comme deux fois plus que ça. Oh.
Tu sais, les intérêts.
Ah oh, non, OK. Ah, oh, pauvre lui.
Mais il s'agit quand même d'une immense victoire sur le plan symbolique.
Oui.
Le juge déclare « L'octroi de dommages exemplaires enverra un message clair au producteur que la fraude, la contrefaçon, la copie, les mensonges à la cour ne sont pas tolérés et que les créateurs sont protégés. » Ces derniers étant souvent démunis financièrement, n'ayant pas la ténacité, l'énergie ni la détermination nécessaire pour faire face à une guérilla judiciaire, sans compter les coûts que ça implique. Partie 7. L'ennemi a toujours deux
sources. Oh non, encore!
En 2011, Claude Robinson court toujours après les sommes qu'on lui doit.
Ben voyons!
Du côté de Cynard, France Animation, Ravensburger, on se renvoie la balle à savoir qui doit payer et on tente d'en appeler de la décision du juge Auclair parce que... Si on paye Robinson, on va faire faillite!
Moi, je vote pour Ravensburger avec leur... c'est eux autres qui font des figurines, là, qui vendent chez Renaud Bré. Ah, je vote pour eux autres.
Puis des casse-têtes.
Puis les casse-têtes, c'est vrai, je vote pour eux. Non, tu caches eux autres, ça, l'industrie du casse-tête, ça va bien, là.
Ah oh, oui, ça va bien avec le confinement.
Oui, c'est ça.
C'est surtout Cynard, en fait, qui craint de faire faillite à cause du scandale North Shield et Montréal.
Ah oui.
Mais moi, je dis, t'as fait ton lit, couche-toi dedans.
Non, mais on va dire que tu l'as fait avec des braises pis des chardons.
En plus, puisqu'on prévoit se rendre jusqu'en Cour suprême,
nice!
Il serait plus sage d'attendre avant de payer Claude Robinson. Et là, la Cour d'appel. Elle se range aussi du côté de Claude Robinson, mais va réduire de moitié les sommes qui lui sont dues. Robinson n'a maintenant plus droit qu'à 2,7 millions, qui suffisent à peine à couvrir les frais d'avocat. Insatisfait et avec raison, on va se rendre en Cour suprême pour faire renverser la décision de la Cour d'appel. Encore une fois, les avocats de Sinard s'évertuent à démontrer que les similitudes entre les œuvres sont seulement dues à une source d'inspiration commune, mais ils vont essayer de tenter de faire condamner de manière similaire toutes les boîtes de production pour éviter que Claude Robinson ne réclame l'entièreté de son dû à une seule boîte de production.
Mais je veux dire, je comprends même pas cet argument-là. Les dessins, ils devaient se ressembler?
Ouais. Mais, ah oui, ça se ressemble.
Mais ça n'a pas de sens. Tu prends le concept de Rémi sans famille, là, il y a 12 000 maudites façons de dessiner ça. C'est pas un argument qui tient la route pantoute, là, cette histoire-là.
Non, on essaie de se couvrir les foufounes, tout simplement.
Moi, je sais pas si j'étais heureux, j'aurais essayé de mettre à jour ma défense un petit peu avec plus de Gertrude Van Boom Boom puis moins d'arguments ça.
Et là, dans son jugement unanime, puisque la Cour suprême, c'est fini final, elle va se ranger à son tour derrière Claude Robinson. Et va ordonner que soit versé au dessinateur 4 millions pour plagiat et dommages et intérêts.
Il arrête pas de baisser le montant, je suis pas contente de ça. Là. J'allais dire go, Cour suprême, mais là, finalement, non, pas go.
Et là, à ce jour, Claude Robinson n'a pas touché à tout ce qui lui
est
dû. Parce que si la Cour ordonne qu'il soit payé, elle peut pas saisir quoi que ce soit.
Mais c'est bien cave, ça, c'est un loupro niaiseux.
Alors, une firme ou un individu peut déclarer
faillite. Mais ça, les huissiers, d'abord.
Tu peux déclarer faillite. Comme Éric Asselin a essayé de faire en cachant son argent dans son jacuzzi.
Ah, mon Dieu, que j'ai hâte d'aller voir le film de Norbeau.
Puis Sinard, avec ses millions cachés dans des paradis fiscaux, là, bonne chance.
Mais au moins, tout le monde aime Claude Robinson, y compris Claude Legault.
Et voilà.
Ben, c'est déjà ça de gagner.
Une autre affaire aussi, c'est qu'un jugement de la Cour suprême canadien n'est pas valide en territoire étranger. Alors, Claude Robinson va devoir faire des démarches judiciaires indépendantes pour se faire payer par les boîtes de production européennes.
Arrangez vos affaires, maudite bande de crosseurs.
Mais quand même, Claude Robinson, il estime avoir obtenu victoire. Et ce, au nom de tous les créateurs. Je le prends personnellement comme une réussite monumentale pour tous les auteurs. On sait maintenant quelle est la ligne sur le plancher qu'un producteur ne peut plus traverser. Apprendre un document en élaboration d'un créateur, y faire quelques modifications et penser qu'il peut se l'approprier. Chose que je trouvais vraiment adorable, c'est que Claude Robinson, il a dit qu'il a toujours continué parce qu'il avait la permission de sa femme.
C'est quand même cute, ça.
Et là, conclusion. Des raisons de sourire!
Oh! Enfin!
En 2011, Claude Robinson a été mandaté pour créer l'affiche du Festival des films du monde.
Les Olympiques!
Catherine Sacrament!
Le festival des films du monde!
Oui! Bon. En 2014, il fait partie du jury du festival Regards sur le court-métrage au Saguenay.
Oh! Oh!
En 2015, il reçoit la médaille de l'Académie royale des arts pour honorer sa contribution exceptionnelle au développement des arts au Canada.
Oh my God!
Et pour souligner son combat visant à faire reconnaître l'importance des droits d'auteur.
Ça fait du bien à mon petit cœur, ça.
Et en 2016, Claude Robinson est le porte-parole pour mon premier Fantasia, le volet jeunesse du célèbre festival de cinéma Fantasia.
Oh!
En 2016, Ronald Weinberg est condamné à 9 ans de prison pour la part qu'il a joué dans la fraude massive liant Sinard, Northshield et Montréal.
Cool, puis il va faire comme 2 semaines de prison puis sortir.
En 2019, of course, il est relâché. Et bien en sûr. 2020... Il réclame de la PCU!
Mais voyons donc!
Il l'a remboursé parce qu'il s'est fait pogner. Bon, on va s'entendre parce qu'il s'est fait pogner.
Hey.
Et c'est ce qui conclut cette très longue histoire juridique qui finit quand même bien. Parce que Claude Robinson, il a pas tout eu, mais il a gagné. Puis je trouve que la victoire symbolique est quand même assez importante sur ce point-là.
Oui. Oh, c'est beau! C'est vrai qu'il y a une belle finale. Oh, j'ai bien aimé ça. Merci beaucoup. D'avoir illuminé ma journée avec cette belle histoire et Gertrude Van Boom Boom. Écoute, je me rappelle même pas de quoi il était question. J'ai juste complètement latché là-dessus. Mon cerveau, il a arrêté de fonctionner. Puis j'étais juste...
C'est un personnage de la série.
Ouais, mais...
Robinson se croit. Puis après, on est juste parti sur une tangente.
Hey, juste ça. Ça a pu marcher partout dans ma tête. Après ça, je comprenais plus partout ce qui se passait. Là, puis wow!
Does not compute.
En tout cas, merci beaucoup. Hey, non, ça, je suis contente. C'est quand même un feel good, tu sais, c'est une belle fin.
pleine de bienveillance et de joie. Et ben pas tant que ça, là. Je veux dire, il a pas touché son argent, mais...
Mais on est content parce que... Mais quand même, Claude Robinson, je tiens à dire, il a l'air d'un monsieur extrêmement sympathique. Oui. Dans le documentaire, la femme qui se voyait plus aller, dans l'épisode d'enquête, je trouvais vraiment admirable le courage de cet homme-là, sa fougue. Puis il y a un segment dans Enquête, mm-hmm. on le voit aller en France pour...
Avec Luc Dion.
Poursuivre ses poursuites. Non, il va tout seul.
Oh.
Puis, dans le fond, on le voit arriver au palais de justice en même temps que les dirigeants de France Animation, BBC, Ravensburger. Mm-hmm. Et il passe en avant de lui, puis il ferme la porte d'en face. Puis Claude Robinson se retourne vers les caméras de Radio-Can et fait juste rire.
Oh.
Fait juste les pointer, puis il rit.
Oh mon Dieu.
Puis il dit à la caméra, « Hey, tu sais, du monde qui ont rien à se reprocher, là. »
Oh.
Je le trouve tellement sympathique, là. Je suis heureuse qu'il ait gagné, puis je suis heureuse que la communauté artistique se soit tenue avec lui, puis que maintenant on reconnaisse vraiment tout son travail, autant sur le plan artistique que son travail, pour faire reconnaître les droits d'auteur. C'est tellement important, c'est tellement une belle bataille.
Oh.
Qui a demandé beaucoup, puis en plus, Claude Robinson, à un certain point, il a dit qu'il était même plus capable de créer tellement ça l'avait drainé mm-hmm. émotionnellement.
Mm-hmm.
Donc, j'ai trouvé ça super touchant aussi comme cas à couvrir. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, chers auditeurs.
C'est rare qu'on dise que le monde soit sympathique ici à un peu de crime, fait que c'est vraiment tout à son honneur. Waouh! Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, si vous voulez avoir de nos nouvelles, on en donne des fois sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook à Un peu de crime et sur Instagram à Un peu de crime dans ton café. Nous avons aussi une boutique Etsy qui est au www.etsy.com/shop/ Un peu de crime. Voilà. Et qu'on a de la belle marchandise à vendre si vous voulez des petits cadeaux de Noël. Là, malheureusement, il y a des délais dans la production. Il paraît que c'est ça, c'est le rush des fêtes, qu'il y a des petits délais dans la livraison des commandes. Mais si vous avez acheté quelque chose puis vous ne l'avez pas encore reçu, inquiétez-vous pas, on ne vous a pas oublié. La commande est passée, on va l'expédier. On fait tout ça nous-mêmes. Là. Fait que moi, je reçois les choses des confections jolies puis je vais les poster. Fait que, écoutez, on fait ça le plus rapidement qu'on peut. On ne vous a pas oublié puis on vous remercie beaucoup pour votre soutien. Sinon, on a-tu d'autres choses à plugger?
Non, pas pour l'instant.
Ça va, c'est merveilleux. Alors, c'est ici qu'on se laisse, à moins que, comme Audrey et moi, vous soyez amateurs et amatrices de District 31, la plus impressionnante série policière de tous les temps, et surtout du Québec.
Oh, surtout du Québec.
Surtout du Québec. Alors, on va enchaîner avec notre magnifique segment des 2 minutes de babine, et pour les autres, on vous dit, dans 2 semaines, on a hâte de vous reparler. Wow!
Yes, sir!
C'est l'heure des 2 minutes de babine! Bon, fait que là, partner, de quoi tu vas me parler aujourd'hui, là? Est-ce que tu vas me parler encore de Gertrude Van Boom, la célèbre criminelle? La fraudeuse internationale. Recherchée par Interpol!
Je pourrais te parler de Gertrude Van Boom Boom, mais je pense qu'à la place, je vais te parler d'un autre madame avec un beau nom.
Ok, oui, c'est fort.
Je vais te parler de Pascal Lanier.
Ouais, c'est un beau nom, ça.
Qui est joué par Caroline Néron, puis je tiens à l'applaudir, je trouve qu'elle l'a bien.
Oh.
Elle joue bien ce rôle-là. Elle a du caractère, à drive, je l'aime bien. Elle a traité Yves Jacob de pickle, j'ai ri pendant 2 jours.
Comme dirait Marjo, elle a la twist, baby.
Ah, elle est pas mal provocante.
Oh,
mais là, la raison pour laquelle je veux te parler de Pascale Lanier, l'ancienne maîtresse de Louis Bourgoin.
Elle a vraiment pas un nom assez sexy, par exemple, mais...
Non, j'avoue. Mais elle est sexy, fait que ça compense.
Voilà.
C'est que...
Ouais.
Elle a eu une date avec Nick Romano.
Oh!
Pis ça a bien mal fini.
Comme une vraie date ou une date où tu payes ta date? Comme un escort?
Une vraie date.
Ah, ok, excuse-moi. Est-ce que c'est un escort?
Ben, une date de tout croche. Comme deux tout croches qui ont des affaires de tout croche à se dire.
Oh, ouais. Wink, wink, nudge.
Fait que là, Nick Romano, il est sorti de prison.
Oh.
Puis maintenant, c'est un tout croche. C'est un ripou.
Un ripou.
Puis là, il a besoin de parler avec Pascale Lanier. Fait qu'il décide de call une date. T'sais, fait qu'il l'appelle au téléphone. Puis Nick Romano, en plus d'être gros comme 2 frigidaires,
yes.
C'est un romantique. T'sais.
Oh, ça paraît dans ses yeux.
Puis là, quand il a décroche, il dit « Hello, sunshine ».
Il était barnaque. Clic!
Bye! Oh! Pascale Lanier est un petit peu bête, fait que moi, sunshine, je suis comme
« Sunshine ».
Pas ce tournoi-là que j'aurais donné, sunshine. Mais bon. Écoute. Okay. Puis là, il dit « Hey, sunshine, ça marche toujours pour asseoir ».
Nice! Confiant.
Là, elle tease.
elle tease un petit peu, tu sais, comme « Oh, je sais pas si ça me le tente. » Puis le Nick Romano, en grand négociateur et grand romantique, il répond « Hey, tu peux pas me dire non, j'ai déjà pris ma douche. »
Nice! Ah, oh, tout un argument.
Yes. Je suis sûre qu'on a des auditeuristes out there qui ont déjà eu une date que la personne avait même pas fait ça pour eux. Fait que comme « Props, Nick! »
Ouais, mais en même temps, tu peux pas utiliser ça pour faire du chantage émotionnel pour avoir ta date, tu sais. Juste l'hygiène de base, oui.
Là, elle est comme « Ok, fine. » Puis elle dit 8 h, comme qu'on s'était dit. Puis elle a dit « Écoute, on peut faire ça à 7 h. Si tu veux, tu vas être couché à 8 h. » Puis j'étais comme «
Ah, parce que ça va être plate à mort ou... »
Ouais, moi, j'étais comme « Ça va être plate ou parce
c'est
que... »
C'est mon petit cœur de naïve.
Mais écoute, ils se rendent à leur date, tu sais.
Ils vont boire du lait chaud et ensuite aller faire un dodo.
Fait qu'ils se rendent à leur date dans un restaurant de Boucherville, pas loin du Ikea. Ça, j'ai reconnu le coin, ça.
Nice.
Puis, ils ont vraiment zéro chimie, Mathieu Baron puis Caroline Néron, comme ça. C'est un petit peu awkward, ces bords.
C'est pas donné à tout le monde.
Puis là, l'avocate de Pascal Lanier, c'est la fameuse Véronique Lenoir, qui est supposée d'être une amie à Nick Romano, mais mettons qu'ils s'entendent plus ben maintenant qu'il est sorti de prison puis qu'il l'a menacé une couple de fois, tu sais.
Ouais, ça te scrappe un rapport, ça.
Elle dit « Ah, bon... » Quelque chose dans les genres de mon avocate m'a dit que je devrais pas me tenir avec toi ou whatever.
Parce que t'es rien qu'un ripou.
Yes, sir. Puis elle, il est comme « Hey, elle doit être assez misérable, Véronique Lenoir, à soir, seule avec ses pantoufles, pendant que moi, je passe une soirée avec la belle Pascal Lanier. » Puis moi, je suis genre
« Pascal. »
Hey, tant qu'avoir une date avec quelqu'un avec qui j'ai pas de chimie, moi, avec, je resterai chez nous avec mes pantoufles, mais whatever.
C'est confortable, les pantoufles. Hein?
Confortable, les pantoufles. Je suis en pantoufles, présentement. Là, les deux, ils font un chin, puis Pascal, elle, il fait une face qui te laisse deviner que cette date ne finira pas en hashtag happy ending. Ils sortent du restaurant, puis là, il dit « Tu connais le chemin? » Puis elle est comme « Oh, hein? » Puis là, Nick Romano se dirige vers son char, puis là, il y a un char qui passe, puis qui tire sur Nick Romano.
Oh non!
Puis là, Pascal, elle appelle la police, puis elle est pas stressée pour 2 cents.
OK.
On entend l'appel du 911, puis en gros, c'est « Ah, ma tête elle, s'est fait tirer dessus, là. Faut-tu j'attende? Arrivez-vous? » Ouais, OK. Pas de trouble. Marc, moi aussi, j'ai eu une couple de dates que, honnêtement, pouf, moi avec, j'aurais appelé la police, puis j'aurais fait comme je peux-tu sacrer mon camp, cette heure? Comme...
Ouais, juste comme par hasard.
Ça a comme pas besoin de durer plus longtemps.
Non, c'est ça.
Fait que, voilà, c'était l'histoire de la date de Nick Romano qui a fini en queue de poisson.
Ah, qui a fini en voyage à l'hôpital.
Yes, sir. Voyage tout vrai payé à l'hôpital.
Oh! C'est donc bien le fun. Bravo pour lui. Une belle petite ride en ambulance.
Hey, mais c'est vraiment une date qui avait vraiment pas de chimie. C'était très, très, très awkward.
Écoute, c'est peut-être que c'est pas ce soir-là qu'il a rencontré l'amour. Mais à chaque torchon, sa guenille, puis à chaque ripou, sa ripoune. On va inventer cette expression-là.
À chaque ripou, sa Gertrude Van Boom.
Gertrude Van Boom, criminel international recherché par Interpol. Oh my god. Ben merci, mon chum, de m'avoir conté cette histoire. Maintenant, je suis plus familière avec Pascal Lanier et je sais que s'il y a un homme qui me dit « Hey, tu peux pas dire non de venir dans une date avec moi, j'ai pris ma douche », j'ai le droit de dire non.
Vous avez toujours le droit de dire non.
Ouais.
Toujours.
Ouais, c'est ce qu'on a.
Peu importe à quel point qu'ils sont propres ou qu'ils sont pas propres.
Ouais, effectivement. Peu importe de quoi qu'ils ont de l'air. Fait que, écoute, c'est short and sweet comme 2 minutes de babine.
Ouais, parce que l'épisode, il était long, en s'il vous
plaît. C'est pas correct. Fait que prends soin de toi, mon chum. On se revoit bientôt pour continuer à boire le bon café dans les belles tasses du SPGM.
Ah, j'ai déjà hâte. Yes, sir, partner.
10-4, mon chum.
10-4.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.